RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF et c'est le dernier 18-19 régional pour cette semaine. En tout cas, nous retrouvons Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce vendredi, une fin de semaine qui est arrivée bien vite, tellement l'actualité est chargée, mais nous on est toujours très heureux de vous retrouver sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes en DAB+, pour vous accompagner. Si vous êtes fidèle au poste et à nos programmes, pas de mauvaise surprise, on vous avait teasé les invités du jour, ils sont tous présents comme c'était prévu, notamment nous serons en deuxième partie d'émission avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. D'ici quelques instants, Jacques Cohen est d'ores et déjà en ligne avec nous pour sa chronique d'actualité « Israël après l'Arménie, l'illusion de la guerre victorieuse perpétuelle ». Un maire qui nous parle, ça c'est en première partie d'émission, c'est aux alentours de 18h20, Patrick Cognard sera avec nous, et puis après ça sera l'information régionale aux alentours de 18h30. D'autres événements exceptionnels à vous présenter, le salon Vitef referme ses portes tranquillement ce soir, la 17e édition, mais on vous présente nous la bioraffinerie de Pocancy, le Raffidin, avec son directeur commercial vignoble, Édouard Baron, qui sera un de nos invités. Et puis on vous présentera un week-end festif du côté de Suippes, puisque c'est le 20e anniversaire de l'orgue Rémi Malheur de Suippes. Voilà pour le programme de ce 18-19 en Champagne-Ardennes. On commence par la chronique d'actualité proposée par le professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Bonjour. La chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Ces derniers temps, on parlait de série d'une guerre à répétition et là, on a une nouvelle série malheureusement qui s'est ouverte.
Qui ne s'est pas ouverte, mais qui s'est continuée, hélas, puisque c'est bien une guerre à répétition. Et j'avais prévu de parler des enseignements pour Israël de la guerre à répétition de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, et d'en faire un avertissement pour Israël d'être perpétuellement victorieux militairement et de maintenir un état de guerre sans solution pour ses adversaires, c'est justement pas une solution, et si j'ose dire, l'avertissement, le Hamas s'en est chargé pour moi. Alors, à que constate-t-on? Que, effectivement, toute situation de guerre perpétuelle où le vainqueur pense qu'il n'y a aucune raison de rendre quoi que ce soit, alors que le problème politique n'est pas réglé, un jour ou l'autre, il finit par y avoir une bascule, soit pour une nouveauté militaire, soit pour un changement de contexte géopolitique. On peut même remonter jusqu'à Alexandre le Grand. À votre avis, combien de temps son empire a tenu après qu'il ait défait Darius?
Alors là, professeur, je n'en ai aucune idée, mais je suis sûr que vous avez la réponse.
J'ai la réponse. 10 ans en tout et pour tout. Donc la roue tourne. Un jour, ce sont les drones qui font la nouveauté. Un jour, ce sont les grandes sarisses des phalanges macédoniennes. L'autre jour, ça sera autre chose. Mais même sur le plan militaire, les choses peuvent varier et les surprises peuvent se voir, comme on l'a constaté ce week-end. Et puis, il y a aussi les changements de soutien géopolitique. Alors, ce qui est toujours dramatique, c'est qu'en Israël, il y a eu tout un tas d'occasions manquées de faire la paix. On aurait pu avoir une paix avec les voisins, mais Ben-Gourion n'en avait pas tout à fait envie alors qu'il prétendait que c'était possible. Or, je suis persuadé que le soft power est la meilleure façon de gagner les guerres qu'on ne mène pas, c'est-à-dire d'avoir une influence politique par son hégémonie économique, et que c'est bien mieux que d'avoir des barbelés. Dans les occasions manquées, on peut voir en 70, septembre noir, et Israël a choisi d'appuyer le royaume de Jordanie qui a viré les Palestiniens vers le Liban, plutôt que de laisser les Palestiniens prendre le pouvoir en Cisjordanie et avoir ainsi un État. Puis après, il y a eu les accords d'Oslo. Puis ensuite, à la mort d'Arafat, le fait d'encourager ou pas d'authentiques démocrates, ce qui ne laissait pas beaucoup, le pauvre Yasser, et au contraire, il a été choisi de laisser Gaza dériver vers les extrémistes assassins pogromistes qu'on a vus à l'œuvre hier, qui sont partisans de l'anéantissement de l'État d'Israël par l'extermination de sa population. On s'est dit que de toute façon, on serait bien incapable, qu'il n'y arriverait pas, et que ce n'était pas bien gênant d'avoir une situation de guerre perpétuelle. Eh bien, on constate que la guerre perpétuelle, ça peut de temps en temps tuer beaucoup. Alors, effectivement, on a raté la situation du soft power qui aurait fait d'Israël la puissance économique régionale et assurer la prospérité de tout le monde. Quand on voit dans quel état est le Liban actuellement, ça fait également tout à fait mal au cœur. Et on peut se servir de cette leçon pour d'autres pays. Parce que la guerre perpétuelle, ça corrode de l'intérieur et ça fracture les États et leurs sociétés, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Iran, de la Russie ou de l'Ukraine depuis 2014, ou l'Arménie, où vous avez vu que les jusqu'au-boutistes irresponsables du Karabakh ont précipité la catastrophe. En plus, la guerre perpétuelle, c'est une drogue économique qui déséquilibre l'économie du pays et qui fait qu'ensuite, il ne peut plus se passer de guerre parce qu'il n'y a que les aides extérieures et une économie de guerre qui lui permettent de s'en sortir. Et on se retrouve ensuite avec des situations qui ont toutes les raisons de durer, alors que la population, bien évidemment, comme tout le monde sur la planète, elle voudrait la paix, mais que les excités ne la veulent pas, qu'il s'agisse surtout et de plus en plus souvent d'excités religieux, d'extrémistes intégristes juifs craignant Dieu, les Haredim, et leurs colonies en Cisjordanie, ou qu'il s'agisse des fanatiques islamiques ou soi-disant islamiques du Hamas ou du Hezbollah. Dans le cas du Hamas, d'ailleurs, on peut constater que ce sont de très mauvais musulmans. On n'a jamais vu la religion musulmane dire qu'il faut exhiber des cadavres de femmes dénudées et cracher dessus. Encore en plus, il s'agit donc de juives et donc de gens qui sont de la religion du livre, que les musulmans ont le droit d'épouser, d'ailleurs. Donc c'est vraiment des assassins pogromistes qui sont les mêmes que les assassins pogromistes de Kiev en 1918, de Lvov, Lviv ou Lemberg en 1941, ou de la vallée du Rhin quand il s'agissait des croisés du royaume de France.
Je me permets de vous interrompre, professeur Cohen, parce que vous parlez de scènes d'horreur, et justement, ce sujet d'actualité, tellement il est chaud bouillant, il est déjà en ligne sur votre blog jhmcohen.com. Si nos auditeurs s'y rendent, ils vont pouvoir voir des images qui parfois interpellent, choquent, et vous, professeur, vous faites le choix de diffuser ces images. Pourquoi avoir fait le choix, justement, de les montrer, de ne pas les flouter?
Parce qu'il faut montrer ce que sont les barbares. Personne n'aurait l'idée de flouter les photos du pogrom de Lvov que j'ai mis. Eh bien, il n'y a aucune raison de flouter les photos des massacres de ce week-end. Il faut savoir à qui on a affaire, il faut savoir ce dont ils sont capables, et la seule solution, c'est de montrer les images. Il y a toute une théorie moderne récente, disant, oui, mais ça encourage les terroristes, ou c'est le résultat, c'est la terreur qu'ils veulent montrer. Non, on doit affronter l'horreur, et on doit agir en conséquence. Je suis pour diffuser toutes les images, j'ai mis des images de Lemberg, j'ai mis des images du week-end, et j'ai mis une vidéo de l'exhibition d'un corps, on ne sait pas très bien si elle est déjà morte ou pas, de la même façon. On doit savoir à qui on a affaire, il faut montrer et nommer les choses. Ces types sont des pogromistes à liquider, parce qu'il n'y a pas 36 autres solutions. Après, reste entier le problème des Palestiniens. Est-ce qu'il faut deux États? Est-ce qu'il faut que les Palestiniens soient intégrés comme les Arabes israéliens? Ce que ne veulent pas non plus les partisans de l'État d'Israël comme État religieux. Et on a en fait deux théocraties qui se regardent non pas en chaîne faïence, mais qui se regardent de telle sorte qu'elles voudraient bien d'une guerre perpétuelle et que des solutions démocratiques en fait ne les intéressent pas. Alors que bien évidemment la population des deux côtés ne voudrait que ça. Alors que peuvent faire les Israéliens? Pas grand chose. Parce qu'ils ont consciencieusement démoli toute solution et toute couche démocratique ou représentation politique chez les Palestiniens. Ils ont abandonné au Hamas, la bande de Gaza où il croit embelli et où il a exterminé les gens du Fatah, il ne faut pas l'oublier. Et les Israéliens et surtout les colons en Cisjordanie battent en brèche régulièrement l'autorité palestinienne et laquelle est complètement déconsidérée dans la population palestinienne. Donc les Israéliens n'ont pas à sortir de la Manche une classe politique et un État démocratique palestinien qu'ils auraient mis au frigo. Et donc ça va leur manquer cruellement. Les seuls qui, pour l'instant, se soient insérés correctement sont les Arabes israéliens, qui en plus sont acceptés il y a peu d'années de rentrer dans le jeu politique démocratique israélien de la Knesset. Et on peut dire qu'ils ont appris les bonnes mais aussi les mauvaises habitudes extrêmement vite. Toutes les magouilles des partis, les courbines, les prébendes, les arrangements, ils se sont coulés là-dedans avec une extraordinaire capacité d'adaptation. Et c'est une bonne chose. Je pense que les Palestiniens en feraient autant si on les intégrait à l'État d'Israël, mais pour l'instant, il ne faut même pas y penser en rêve, parce que des deux côtés, c'est une théocratie archaïque qui domine, et du côté palestinien, c'est plus qu'une théocratie, c'est une bande d'assassins.
Vous le savez, Jacques Cohen, le temps passe toujours très vite, et dans cette chronique, il nous reste très peu de temps, mais je crois que vous vouliez avoir une pensée particulière pour le kibboutz. Je voulais juste en dire un mot avant de conclure.
Absolument, je voulais avoir une pensée particulière pour le kibboutz de Netif HaHasara, qui est situé à 500 mètres de la bande de Gaza, Et c'est en quelque sorte où c'était une forêt vestigiale de gauchistes babacool pacifistes qui avaient mis sur leur entrée, sur le mur de protection, une colombe, une inscription en hébreu et en arabe et en anglais, Pass for Peace, bienvenue à les natives, etc., etc. Eh bien, ça n'a pas empêché les massacreurs pogromistes de tuer 15 personnes dans ce kibbutz comme ailleurs. Et je voulais avoir une pensée pour eux, parce que ce sont vraiment des militants irréductibles pour la paix qui ont été massacrés par des assassins pogromistes à la violence non pas aveugle, mais à l'antisémitisme résolu et indistinct, qui scandent dans les manifestations de Gaza d'ailleurs, ou dans les manifestations de soutien en Occident, du fleuve, c'est-à-dire le Jourdain, à la mer, Palestine vaincra, c'est-à-dire on mettra les Juifs à la mer ou on les anéantira. Situation qui n'est pas acceptable non plus, parce qu'il y a deux peuples qui doivent soit finir par s'entendre, soit vont se faire la guerre indéfiniment, ou du moins pendant très longtemps.
Plus d'informations sur votre blog jhmcohen.com. À très bientôt, professeur.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
La suite de cette émission, c'est un maire qui nous parle. On va dans le Sud-Ardenne à Juniville pour rencontrer ce maire ce soir. Christian Cognard est avec Jean-Pierre Benoît.
Monsieur Cognard, est-ce que vous pouvez nous dire, nous présenter un peu votre commune, Juniville ?
Bonjour, Juniville est une commune qui se situe dans le sud du département des Ardennes, en Champagne naturelle. On est à 35 km de Reims. On est traversé par la rivière de première catégorie, la Retourne. Actuellement, nous recensons 1300 habitants, alors qu'il y a à peine 20 ans, nous en comptions 850. C'est vrai que la proximité de Reims, avec un foncier abordable, un environnement presque complet de services à population, tant scolaire que pour la santé, équipement sportif ou culturel, rendent bien sûr attractive notre commune.
Vous êtes maire depuis un moment, Christian Cognard ?
Je suis maire depuis seulement 3 ans, en mai 2020, mais je préciserai que je suis conseiller municipal depuis 1977, donc j'en suis à mon 8e mandat. Je suis un vieux routier dans le domaine, et puis après être premier adjoint, je suis devenu maire en mai 2020, parce que il restait plus que 6 conseillers sur 15. On m'a sollicité fortement pour que je reste, que je prenne les rênes de la municipalité avec mon expérience, mes connaissances des dossiers, puis aussi un peu ma disponibilité. C'est ce qui fait que j'ai accepté de me dévouer quelque part pour la cause publique de Juniville, dirons.
Qu'est-ce qu'on peut dire de votre commune Juniville, Christian Cognard ? Quel type d'habitants ? Le monde agricole, mais aussi des gens qui vont travailler à Rethel, à Reims, des jeunes, des moins jeunes ?
Juniville était et est toujours une commune rurale, bien sûr, et à vocation agricole, hein, dominée. Nous, on est en zone de grande culture céréalière betteravière. C'est le berceau, Juniville, c'est le berceau d'une coopérative agricole, la seule qui a des Ardennes, de son moulin qui vient d'ailleurs fêter ses 100 ans. Mais il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, peut-être une douzaine. La population de Juniville, elle est relativement jeune, elle s'est fortement renouvelée, rajeunie, parce qu'il y a eu beaucoup de lotissements. Et puis on a une forte proportion de locatifs dans un bâti qui a été réaménagé, rénové au fil des ans, ce qui nous a permis d'accueillir beaucoup de jeunes couples. Dans le domaine économique, on a quelques entreprises importantes qui sont pourvoyeuses d'emplois, communes de transport. On a le siège, je l'ai dit, de la coopérative de Juniville, et puis on a une entreprise de conditionnement de pommes de terre. On dit qu'il y a pratiquement autant de personnes qui viennent travailler à Juniville que de Junivillois qui vont travailler à l'extérieur. Et quand on dit travailler à l'extérieur, c'est plutôt sur Reims essentiellement et Rethel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la commune de Juniville, c'est une ville dortoir, puisque les gens sont quand même attirés par toute l'offre qu'on peut leur proposer dans le domaine. On a le scolaire, on a les écoles primaires, on a le collège, on a des commerces, on a 23 associations, ce qui fait que les gens ne font pas que dormir à Juniville.
C'est très vivant, c'est très accueillant, Juniville, puis c'est pas très loin de Reims, alors ça touche Rethel. Bon, il y a quand même beaucoup de choses, on aura l'occasion d'en reparler. Simplement, les communautés de communes, les regroupements ont modifié souvent le rôle des maires. Est-ce qu'on peut dire quand même que le maire d'une commune reste quand même, c'est la question que je pose à chaque fois, le patron chez lui ? Est-ce que, bon, on fait quand même tout le temps appel à vous, les gens qui habitent Junéville, ils voient le maire, ils l'interpellent.
Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours l'éternel débat de dire on est dépossédé de nos responsabilités, de nos compétences avec la création des communautés de communes. Moi, j'ai vécu la création de la communauté de communes du Junévillois qui s'est transformée en 2014 en communauté de communes du Perrotet-Lois. Mais faut quand même reconnaître que des communes, même comme celle de Junéville, n'auraient pas pu assurer et assumer tout le développement qui soit à caractère économique ou les infrastructures sans qu'il y ait une mutualisation au travers des communautés de communes. Alors, on participe, on reste patron de sa commune si on s'engage, si on est dans la communauté de communes, ce qui est mon cas. Moi, je suis, par exemple, vice-président dans la communauté de communes du Perrotet-Lois, je suis vice-président chargé des finances, ce qui permet d'être à la commune de Genève d'être représenté et de participer à toutes les décisions qui peuvent se prendre et qui intéressent Genève ou pas. Alors après, on reste quand même le patron de la commune parce qu'on a quand même beaucoup de compétences. Hein. On a l'assainissement, on a la voirie, on a, je dirais, toute la dynamique. Y compris commercial, artisanal, je veux dire, le développement de l'urbanisme. Enfin, je veux dire, il nous reste. Alors, je pense que si on arrive à faire, à bien partager un petit peu sa responsabilité entre celle de la commune et puis celle qui est la complémentarité dans une commune au travers de la communauté de communes, on peut rester encore maître chez soi, malgré que beaucoup disent, ah ben, on est dépossédé. Non, je pense qu'il faut ça, il faut continuer à être le responsable de sa commune au travers de la communauté de communes.
Avez-vous des projets en cours, à court terme, à plus long terme, avec votre conseil municipal ?
Des projets, on en a toujours, même si depuis 2 ou 3 ans, on n'a pas pu tellement les mettre en œuvre parce qu'on était un petit peu coincé financièrement au niveau de notre commune. Comme ça va un peu mieux, on a d'autres projets. On a un projet qu'on retrouve dans de nombreuses communes, un projet de vidéoprotection parce que on doit protéger les biens des personnes. On n'est pas exempt de constater que il y a des dégradations, des incivilités, il y a un certain nombre de problèmes semblables. Bon, ça fait partie. C'est quand même un gros projet qui est assez coûteux, même s'il est largement subventionné. On doit réhabiliter un ensemble qui s'appelait Saint-Exupéry, l'ensemble qui est vétuste sous réhabilitation, et puis profiter de pouvoir l'adapter d'une manière économique en termes d'énergie. Après, on a aussi en projet, même si c'est pas la commune, mais la commune favorise l'implantation d'une moyenne surface alimentaire. Et puis, on a toujours des travaux de voirie. Enfin, voilà, un petit peu dans les projets à moyen terme, je veux dire 2024 et 2025, 2026.
Monsieur le maire, la vie professionnelle, la vie familiale, est-ce que c'est pas une contrainte supplémentaire quand même quand on est maire, parce que on doit parfois conjuguer tout ça et on y arrive?
Ah, mais c'est une recherche permanente du compromis entre sa vie professionnelle, moi je suis en retraite, mais entre son activité, sa fonction de maire et sa vie familiale. Faut savoir maintenir des équilibres, ne pas être trop dépendant de la mairie. C'est pas toujours facile de faire la part des choses et puis de donner la priorité à la mairie au détriment parfois de sa vie de famille, de réunions ou même de ses activités personnelles. Je ne suis encore pas trop dérangé en dehors des heures normales, c'est-à-dire la nuit, le week-end. Mais c'est vrai que pendant les vacances, on reste quand même connecté à la mairie ou avec la secrétaire. C'est quand même un engagement pour moi qui représente à peu près un 2/3 temps quand même. Alors c'est vrai, je répète, c'est de la conciliation et du compromis toujours à rechercher, quoi. Alors il faut aussi que, en l'occurrence, votre épouse, elle partage votre engagement, sinon.
Juste d'un mot, parce qu'il doit nous rester peu de temps, Christian Cognard, moi j'ai en mémoire à Junéville, Lucien Meunier, c'était une personnalité extraordinaire dans le temps, il était député, il était à Junéville, non?
Il était député maire de Junéville,
pendant longtemps.
Un des grands hommes qui ont
marqué les Ardennes. On aura l'occasion, Christian Cognard, de nous retrouver. Simplement, vous êtes un maire heureux?
Je suis un maire heureux parce que j'ai vraiment le sentiment d'être utile, d'être au service de tous nos administrés. C'est ce qui me redonne le punch et qui me donne toujours envie de continuer. C'est vrai qu'à des fois,
formidable. Formidable, vous êtes formidable, monsieur le maire. On aura l'occasion de nous retrouver, donc à très bientôt sur RCF.
À bientôt.
Et quand la pendule flirte avec 18h30, comme dirait Jean-Pierre Benoît, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce vendredi 13 octobre 2023, les groupes Relais Lumière Espérance de Reims et Châlons en Champagne proposent ce samedi à l'Épine une journée rencontre des groupes du Grand Est découverte. L'UIMM Champagne-Ardenne tire un premier bilan de l'année 2023 et commence à se pencher sur 2024, le point sur la conjoncture.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Comme c'était attendu, ce vendredi 13 octobre a été marqué par les grèves dans de nombreux secteurs suite à l'appel de l'intersyndicale pour se mobiliser contre l'austérité, l'augmentation des salaires, des pensions et l'égalité femmes-hommes. Notre territoire n'y a pas fait exception. L'association Relais Lumière Espérance apporte un soutien moral et spirituel aux personnes dont l'un des proches est touché par une maladie psychique. Elle propose des rencontres régulières où la participation du conseiller spirituel par sa méditation permet à chacun d'approfondir sa foi en Dieu et en son amour. La prochaine aura lieu demain samedi au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine avec tous les groupes relais de la région Grand Est. Vincent Alliot, délégué régional de Relais Lumière Espérance.
Cette journée commencera évidemment par un accueil café. Après cet accueil, il y aura une brève présentation, une prière qui sera guidée par Monseigneur Bayard, notre conseiller spirituel national. Ensuite, un topo par Madame Monique Durand-Wood, une théologienne et aussi ancienne aumônière en hôpital psychiatrique et qui connaît très bien la question des proches malades psychiques puisqu'elle a elle-même un fils en souffrance psychique. Nous irons à la messe à la basilique à 11h30 et il y aura des partages en petits groupes sur des questions, sur trois questions posée par l'intervenante, avec des remontées, bien sûr. L'intervenante répondra à quelques-unes des questions qui lui auront été posées par rapport à son exposé.
Des propos recueillis par Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne. Le thème de cette journée sera « La vérité vous rend libre. Quelle liberté et quelle vérité pour et au sein de nos familles confrontées à la souffrance psychique d'un proche ?» La journée aura lieu demain dès 9h à la salle Odette Prévost à l'Épine en présence de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, et de Mgr François Touvet, évêque de Châlons, et de Mgr Armand Maillard, archevêque émérite de Bourges. La Croix-Rouge ouvre ses portes ce samedi à Châlons-en-Champagne et à Troyes de 10h à 16h, une occasion privilégiée d'échanger avec les professionnels et les apprenants pour découvrir les métiers proposés en formation initiale ou par la voie d'apprentissage. Les vitrines de Reims dynamisent le centre-ville ce week-end avec l'événement Bulles et Terroirs. Ça a commencé dès aujourd'hui et les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche. Une vingtaine d'exposants, vignerons de champagne et de produits de terroir seront présents pour raconter leur histoire et révéler leur savoir-faire. Au moment d'entamer le dernier trimestre 2023, l'Union des industries des métiers de la métallurgie dresse le bilan aux trois quarts de l'année et essaye de se pencher vers des perspectives pour 2024. Christian Breton, président de l'UIMM Champagne-Ardenne, propose une photographie de la conjoncture actuelle.
Alors je dirais jusqu'ici tout va bien. Comme c'est la personne qui saute du 10e étage, arrivée au 5e, jusqu'ici ça va bien. Donc bon, je plaisante un peu, mais pour l'instant les entreprises ont du travail en général. On sent des secteurs où les carnets de commandes commencent à se vider, c'est-à-dire que l'actualité instantanée est plutôt bonne. Par contre, les perspectives et les prévisions sont un peu plus compliquées. On a un peu moins de visibilité que l'année dernière, quoi.
Une situation disparate à travers la Champagne-Ardenne que nous détaille Christian Breton, aussi responsable du comité local Marne.
Oui, on sent des secteurs. Bon, dans la Marne, je dirais qu'on n'a pas forcément complètement atteint. On a une industrie un peu bicéphale entre l'agro, la biochimie et puis le champagne. Globalement, voilà, ça va plutôt bien. C'est un peu plus compliqué sur d'autres territoires. En l'occurrence, les entreprises travaillent pour le bâtiment, les entreprises travaillent pour l'automobile, où ça commence à se tendre un petit peu plus, quoi. Donc, on va dire sur la Haute-Marne, sur l'Aube et sur les Ardennes, c'est un peu plus compliqué, oui.
Malgré des secteurs en tension, l'UIMM cherche des solutions et essaye d'anticiper au mieux.
Oui, on fait ce qu'on peut depuis tout entrepreneur. La grande faculté des entreprises qui réussissent, c'est forcément celle qui s'adapte le mieux au contexte. Donc effectivement, il faut s'adapter à un contexte qui est changeant. Pour connaître l'entreprise, depuis j'ai monté mon entreprise il y a 35 ans maintenant. Avant, on avait un ennui, un problème tous les 2-3 ans. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Donc il faut s'adapter beaucoup plus vite en fait.
L'industrie, un secteur aussi qui peine à recruter et à attirer. Pour cela, de nouvelles pistes sont déployées. On en parlera avec Jean-Michel Cateau, président du pôle formation de l'UIMM, dans les prochains jours. Du sport au programme ce week-end, parmi les principales rencontres, l'ouverture de la saison de Pro B ce soir. Le Champagne Basket reçoit La Rochelle à 20h30. Après 4 rencontres officielles de suite à domicile, les Flammes Carlo se déplaceront, elles, sur le parquet de Basketland dimanche à 15h15 pour la 4e journée de Ligue féminine de basket. En football, c'est la trêve internationale. L'événement sport collectif du week-end, c'est dimanche à 21h, le quart de finale de la Coupe du monde de rugby France-Afrique du Sud. Mais on note aussi à Reims, c'est samedi et dimanche, la course bien connue, le Run in Reims, qui va réunir plus de 13 000 participants à travers différentes épreuves. La circulation sera impactée. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et ce magazine régional sur RCF Reims-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, vous emmène désormais au VITEF, la 17e édition qui se termine tranquillement ce soir. Et on vous propose donc de découvrir les acteurs du monde vitivinicole, dont la bioraffinerie située à Pau-Cancy, près de Châlons-en-Champagne. Édouard Baron, directeur commercial vignoble au Raffidin, est en ligne avec Christopher Fausten.
Et oui, on prend la direction du salon VITEF. Avec nous aujourd'hui, Édouard Baron, qui est directeur commercial vignoble au Raffidin. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous à distance depuis le salon VITEF pour nous faire vivre bien ce salon. Déjà, comment se passe ce salon VITEF depuis son ouverture mardi dernier?
Écoutez, il se passe très bien. On reçoit de nombreux viticulteurs, négociants, coopérateurs sur le stand du Raffidin et on voit qu'il y a de l'activité dans les allées du salon. C'est une date importante que les Champenois retiennent tous les deux ans avec ce VITEF, donc il faut venir nous voir.
Voilà, venir vous voir également. Alors, le Raffidin, en quelques mots, bioraffinerie familiale qui a été créée en 2007. Que proposez-vous exactement comme activité au sein du Raffidin?
Et tout à fait, on est une bioraffinerie où en fait on collecte tout ce qui sort d'un pressoir de champagne et qui ne devient pas champagne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aignes. Les aignes, c'est tout ce qui sort de ce fameux pressoir. Donc on retrouve dans les aignes les rafles, la grappe, la peau, les pépins et aussi tous les jus. Et tout ça va être collecté au moment des vendanges. Donc en l'espace de 15 jours, le Raffidin collecte 25 000 tonnes d'aignes dans toute l'appellation champenoise. Toute cette matière est récupérée, apportée au Raffidin et au Raffidin, on va aller réussir à valoriser tout ce qu'il y a de bon dans cette matière récupérée chez nos apporteurs, que sont les maisons de négoce, les récoltants manipulants et les coopératives vinicoles de l'appellation Champagne.
Deux mots-clés, collecter et valoriser tous les coproduits du vitivinicole.
Exactement. La collecte est un moment indispensable. Alors la collecte, elle se passe sur 15 jours. Ce sont les vendanges que tous les champenois connaissent. Oui. Et puis après, la valorisation, c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'on arrive à valoriser 100% de ce qu'on va récupérer chez nos apporteurs. Donc on va réussir à valoriser la rafle et la peau. C'est du compost qui va retourner chez nos apporteurs. Ça, c'est un grand défi pour l'année 2023-2024 au Raffidin. Oui. Les rafles et les peaux vont être transformées en compost et retourneront à la vigne. On est dans une économie circulaire. Le deuxième sujet, c'est tout ce qu'il y a de bon dans les pépins de raisin. Il y a des conservateurs naturels dans les pépins de raisin qu'on appelle les polyphénols de raisin. Et ces polyphénols servent à 4 sujets principaux. On va aller les vendre sur des marchés de la pharmaceutique, de la cosmétique, de la nourriture animale et des compléments alimentaires. Donc voilà, on est vraiment dans une économie circulaire, une économie locale. C'est 20 personnes qui travaillent au Raffidin. Ce sont des emplois industriels ruraux au cœur de la Champagne. Et ça, c'est vraiment ce qui nous différencie et qui fait notre richesse et notre valeur ajoutée pour la Champagne.
Édouard Baron, j'imagine que vous êtes situé au cœur du vignoble en faisant toutes ces activités.
exactement, on n'est pas très loin de Châlons en Champagne. On est sur la route entre Vertu et Châlons à Pocancy. Donc, on est au pied de la côte des Blancs, mais on est au cœur du vignal, pas très loin du Cézanne, sur la route de l'Aube. Et puis, la montagne de Reims n'est pas si loin que ça. Donc, on est, voilà, on est vraiment au cœur de cette belle région pour pouvoir être assez réactif avec nos apporteurs pour aller chercher la matière qui vont nous livrer.
Donc, une bioraffinerie créée depuis 2007. Vous en êtes le directeur.
Commercial.
Directeur commercial, pardon. Comment se passe justement votre activité de façon générale?
Écoutez, notre activité se passe plutôt, ça se passe plutôt très bien. C'est sûr qu'on sort d'une période assez assez riche et assez fatigante avec les vendanges, parce que c'est pour les collaborateurs du Raffidin, c'est vrai que ce sont trois semaines de vendanges intenses où on bosse, où on travaille 7 jours sur 7, 24/24. Mais voilà, on a collecté 25 000 tonnes d'aigne pendant ces vendanges. Donc c'est quand même un record pour le Raffidin, donc une vraie fierté. Donc l'activité se porte bien, et la valorisation à l'aval de notre process sur tous les sujets de polyphénol que je viens d'évoquer sont aussi des sujets enthousiasmants, et on voit qu'il y a vraiment des débouchés importants. Donc voilà, il y a une pépite en Champagne, il y a une pépite en Champagne qui s'appelle le Raffidin, et qui essaie de valoriser toute cette matière, tous ces coproduits vitivinicoles qui sortent des pressoirs de nos amis champenois.
Où peut-on retrouver le Raffidin, Édouard Baron?
Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur notamment le réseau LinkedIn. Et puis après, le siège du Raffidin, l'entreprise, est basée à Pocancy, dans la Marne, sur la route départementale entre Châlons-en-Champagne et Vertu. Et on accueillera tous ceux qui peuvent s'intéresser à la richesse de notre belle Champagne.
Merci beaucoup, Édouard Baron, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directeur commercial vignoble au Raffidin. À très bientôt sur RCF.
Merci à vous.
Merci Édouard Baron et Christopher Fausten. La bioraffinerie familiale est à découvrir sur le site leraffidin.com.
Le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, parmi les rendez-vous du vendredi, dans cette deuxième partie d'émission, régulièrement en alternance, une fois tous les 15 jours, avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, on retrouve Mgr Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque du diocèse, entretien avec Jean-Pierre Benoît.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
L'actualité, c'est ce qui se passe en Israël. Vous avez, avec la conférence des évêques, vous aviez fait un communiqué dès samedi.
Oui, ben c'est vraiment un très grand drame, hein, ce qui se produit. C'était une surprise malgré tout samedi, et surtout une surprise, enfin encore plus une surprise devant l'horreur des actes perpétrés par les hommes du Hamas. Il y a un degré de violence, par conséquent de mépris de l'autre, etc., qui est vraiment effrayante. Voilà, qui relève vraiment de ce qu'est la violence terroriste, s'attaquer à des civils, s'attaquer à des gens qui sont en train de vivre un concert, s'attaquer à des familles, emmener des gens en otage, les garder en otage. Voilà, tout ça sort des lois, s'il y en a, de la guerre, et relève du terrorisme. Et là, vraiment, visiblement, avec une violence particulièrement atroce. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça déclenche forcément une réaction d'Israël. Voilà, et que la bande de Gaza, qui était déjà dans une situation effrayante, et dans une situation, il faut bien le dire, d'injustice très, 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 très grande, eh bien, se trouve comme redoublée. Voilà. Après, il faut quand même ne pas oublier que le Hamas ne représente pas forcément l'intégralité des Palestiniens, et n'est pas ni le seul, ni le meilleur des porte-voix des Palestiniens.
Monseigneur, vous aurez l'occasion peut-être de vous rencontrer avec d'autres responsables religieux, soit au niveau national, soit au niveau local.
Au niveau national, nous avons réussi à rédiger avec les responsables juifs, musulmans, protestants, orthodoxes, bouddhistes et puis catholiques, un communiqué commun. C'est une belle chose. Ici, nous sommes rencontrés, nous continuons et nous avons décidé de nous rencontrer très régulièrement. Chaque mois avec les responsables des cultes ici à Reims, parce que, évidemment, il ne faut surtout pas, et le président de la République a insisté hier, que ce conflit, comme d'autres conflits internationaux, devienne une occasion de fracture dans notre pays et de violence dans notre pays. Voilà, de fait, on voit la résurgence de la guerre, hein, la résurgence de la violence, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre en Arménie, avec donc ces événements qui relèvent plus ou moins de la guerre ou du terrorisme. Voilà, nous sommes dans un monde de violence, et c'est notre force, ça devrait être notre force à nous, chrétiens, de croire vraiment que par la puissance de Dieu, tout acte vers la paix, toute action vers la paix mérite d'être menée. Et si elle ne transforme pas immédiatement le cours de l'histoire, elle est quand même la vérité de l'histoire.
Oui, vous avez évoqué d'autres conflits. On pourrait parler aussi de l'Afghanistan. D'ailleurs, tout récemment, vous avez rencontré le fils du commandant Massoud à Reims.
Voilà, la mairie de Reims, la ville de Reims a reçu le fils du commandant Massoud qui fait une tournée européenne, qui visiblement connaît bien la France. Son père était très, très lié à la France, il était lui-même francophone. Il ne connaît pas son fils qui étudie en Grande-Bretagne. Donc la ville a organisé un événement auquel j'étais invité. C'était tout à fait émouvant de le rencontrer et de l'entendre. Voilà, l'Afghanistan est une situation terrible aujourd'hui, hein, sous la domination d'un espèce de groupe de... plus ou moins religieux ou pseudo-religieux, je ne sais pas comment il faut dire, soi-disant d'étudiants en théologie, mais les étudiants en théologie, ce sont des termes occidentaux que nous plaquons sur des réalités qui ne le sont pas. Les étudiants en théologie chez nous, dans l'Église catholique, ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir politique et encore moins par les armes, ça paraît invraisemblable. Voilà. Mais en attendant, donc, l'Afghanistan est dans une situation très terrible, et en particulier les femmes afghanes, on le sait bien, se trouvent dans une situation effrayante, parce que une espèce de mise en œuvre de la loi islamique de manière complètement fantasmatique, mais malheureusement qui s'applique réellement sur place. Donc c'est un lieu de grande souffrance à l'échelle mondiale, mais c'est le résultat de l'échec, de l'incapacité à la fois de ce pays, mais des parrains de ce pays, de permettre à ce pays de construire une véritable société.
On aura l'occasion d'en reparler, Monseigneur, si on revient dans le diocèse de Reims. Tout récemment, une rencontre importante diocésaine, c'était à Charleville-Mézières, des acteurs de la pastorale, des acteurs pastoraux, et la publication par vous d'une lettre pastorale.
Voilà, alors donc le mois d'octobre est pour notre diocèse toujours un mois riche. Hein, nous commençons toujours par la fête de Saint-Remi, qui est un beau moment important. Et puis, nous prenons l'habitude d'avoir, la semaine d'après, une réunion de tous ce qu'on appelle les acteurs pastoraux, donc les prêtres, les diacres, les laïcs vraiment qui ont une mission, et puis les membres des différents conseils qu'il y a dans les paroisses, dans les espaces missionnaires, à tous les niveaux. Voilà, donc samedi, nous avons cette réunion qui était très belle, je crois, très joyeuse, profonde, avant la chance de bénéficier d'un très beau temps et de l'accueil à la fois de la basilique Notre-Dame d'Espérance, que beaucoup de gens du diocèse ont découvert, parce qu'ils ne font pas tous faire du tourisme à Charleville-Mézières, et puis aussi des écoles, de l'école du collège Notre-Dame à côté, qui nous ont accueillis vraiment très, très généreusement, très gentiment. Voilà, et donc c'était une belle journée de travail, d'écoute mutuelle. Voilà. Et puis j'ai, à cette occasion, publié une lettre pastorale, parce qu'il a semblé nécessaire d'expliquer plus profondément les raisons de notre transformation de l'organisation pastorale de notre diocèse, de tracer quelques perspectives, si possible dans l'espérance, sachant voilà, la difficulté ou les inquiétudes de chaque jour.
En un mot, vous avez aussi évoqué la sanctification du dimanche, le dimanche qui devrait retrouver, lorsqu'il n'y a pas on ne peut pas aller dans une messe, une vocation première, particulière.
Alors c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que même si on va à la messe, ça ne suffit pas à sanctifier le dimanche. Ce que j'essaie de dire, c'est que le commandement de Dieu, c'est de sanctifier le dimanche. Alors nous avons pris l'habitude de le sanctifier en allant à la messe, à l'Eucharistie dominicale. Et c'est une très belle manière de faire, et on a beaucoup travaillé ici depuis Saint-Remi, pour que ce soit possible et facile à tout le monde. Mais aller à la messe ne suffit pas, il faut que toute la journée soit imprégnée de cette recherche, la sanctification de Dieu. Et même si on ne peut pas aller à la messe, qui aujourd'hui peut arriver, parce que les messes sont moins nombreuses, donc pour un certain nombre de gens elles sont loin, elles sont difficiles d'accès, c'est particulièrement vrai dans le monde rural évidemment. D'autres personnes ne peuvent pas y aller parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont bloquées chez elles pour une raison ou pour une autre. Eh bien, ça n'empêche pas de sanctifier le dimanche. En tout cas, de chercher à le sanctifier. Il y a différentes manières de faire. Donc, j'essaie d'amorcer la réflexion sur le sujet. Après, c'est à chacun de trouver sa manière de faire.
On peut se procurer cette lettre, bien entendu, celle et ceux, nos auditeurs, ils peuvent
joindre la communication, etc. Accessible sur le site du diocèse, mais elle a été publiée sur papier et les espaces missionnaires sont censés la distribuer.
Monseigneur, si on regarde un peu l'agenda, alors vous avez participé à une rencontre des bénévoles, on peut le dire d'un mot, du Secours catholique, ça aussi fait un moment...
Oui, c'était hier, enfin moi en tout cas je suis allé hier, le Secours catholique fait des réunions dans tous ces secteurs. Donc Henri Danet, c'est dans les Ardennes. Aujourd'hui, enfin hier, c'était ici à Reims, ça s'est passé à Besanne. Et c'est toujours admirable de voir l'engagement de personnes à qui j'ai pu dire qu'ils sont en quelque sorte le sourire de l'Église et de la France.
Et puis vous allez, j'allais dire, vous envoler, c'est le terme exact, pour la Réunion ce week-end. De quoi s'agit-il, Monseigneur ?
Ben oui, ce week-end, je fais un aller-retour vraiment à la Réunion parce qu'il y a un nouvel évêque qui a été nommé. Son prédécesseur, Monseigneur Aubry, a été 47 ans évêque. Donc,
il était ordonné jeune alors.
Donc il a été ordonné jeune, ce qui est une chose, mais voilà, heureusement, il a une bonne santé, mais enfin, il laisse la place maintenant. Et il y a quelqu'un qui était son vicaire général d'ailleurs, qui était donc un prêtre local, et d'origine, une famille d'origine chinoise, qui va être ordonné. Et je crois important de montrer la solidarité et la fraternité de toute l'Église de France.
Merci Monseigneur, on aura l'occasion de vous retrouver dans une quinzaine de jours et on vous souhaite un très bel envol vers la Réunion.
Et merci à tous et à toutes et bon samedi, bon dimanche à tous. Oui.
Merci Monseigneur, très belle journée.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, merci Jean-Pierre Benoît.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et pour terminer cette émission, ce vendredi soir, nous prenons désormais la direction de Suippes, dans le nord-est de la Marne, puisqu'un week-end festif se prépare. Christopher Fausten.
À l'occasion des 20 ans de l'orgue Rémi Mahler du côté de Suippes, l'association locale Les Amis de l'Orgue de Suippes, en partenariat avec la commune, vous invite à deux concerts exceptionnels en l'église Saint-Martin de Suippes ce week-end. Jean-Michel Houdard, bonjour.
Bonjour Christopher.
Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF pour nous parler de cet événement exceptionnel qu'on va prendre le temps de le présenter. Bien évidemment, ces deux concerts qui auront lieu dans un premier temps le samedi 14 à 20h30 et le second le dimanche 15 à 15h. Dans un premier temps, Jean-Michel Houlard, parlons un petit peu de cet Alsacien Rémi Mahler.
Alors Rémi Mahler est un facteur d'orgue qui a été consulté il y a 20 ans. Lorsque la commune a pris la décision de faire reconstruire un orgue à la place des orgues qui avaient été malheureusement pendant les deux conflits, le premier de 14-18 et celui de 39-40, complètement détruits. Et donc, sur une proposition et sur un appel d'offres que Rémi Mahler a été retenu pour édifier cet orgue de type baroque allemand, qu'il a construit avec les mêmes façons de faire que les facteurs d'orgue travaillaient du temps de Bach. C'est un instrument un peu particulier, assez spécial. Il y en a très peu de cette façon-là, qui sont très très adaptés à toutes les œuvres de Bach.
Alors on peut le dire, Jean-Michel Houdard, que c'est un orgue assez exceptionnel dans le sens où il comprend plus de 2000 tuyaux répartis en 28 jeux.
Tout à fait, 28 jeux. Deux claviers et un pédalier. Ah, c'est un bel instrument, c'est un très bel instrument.
Alors un instrument historique, exceptionnel, et il a été inauguré en 2003 ?
Tout à fait. Quand cet orgue-là, de la façon dont il a été construit, quand il était neuf, il était déjà ancien.
Ah, oui, bien sûr.
De par la façon dont il a été construit. On a plutôt souvent des anniversaires qui sont des orgues qui sont centenaires ou bicentenaires ou tricentenaires. Là, on a un orgue de 20 ans, mais qui vaut le déplacement, qui est souvent visité par les organistes et par les connaisseurs de passage.
Jean-Michel Houdard, président des Amis de l'Orgue de Suippes, avec nous en ligne sur RCF pour nous parler de cet anniversaire, les 20 ans de l'orgue Rémi Mahler. Pourquoi un Alsacien comme Rémi Mahler s'est engagé à réaliser cet orgue du côté de Suippes?
En fait, ce qui se passe, c'est que dans le contexte de la région, les différents orgues de Sainte-Menehould, de Lépine, de Juvigny, de Vertu, ont des particularités différentes de ce que la municipalité voulait faire construire. C'est-à-dire un orgue baroque, mode allemand, comme je vous disais, construit comme à la manière des facteurs d'orgue. Et Rémi Mahler était un des facteurs d'orgue qui était capable de faire cet orgue. Pour la petite histoire, cet orgue-là, a été monté trois fois. Il l'a, en 2003, monté bien sûr en atelier. Il a été au salon en 2003 de la musique à Paris, donc monter à nouveau et jouer à Paris, et pour arriver ensuite dans sa place définitive, dans son petit cocon de notre église de suite.
Alors, inauguré en 2003, on fête les 20 ans voilà. Ce week-end, Jean-Michel Audard, avec deux concerts exceptionnels. Est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs aujourd'hui ces deux concerts qui auront lieu du côté de Suip?
Le concert s'appelle « Des profondeurs vers la lumière ». C'est une cantate de Bach, donc ça ne vous étonne pas.
Pas du tout.
Compte tenu de ce que j'ai envie de dire. Il sera interprété par l'ensemble Fondamente Nove. C'est un collectif européen qui associe accordis et organo, des chanteurs, alors essentiellement coréens et allemands, artistes coréens et allemands, dans le sens où la ville de Suip a des liens particuliers avec les Coréens de France, dans le sens où, après la guerre de 14-18, des émigrés coréens sont venus travailler dans la région de Suip et ont fondé la première association de défense d'indépendance de la Corée à cette époque-là, qui était un petit peu chahutée par les velléités du Japon. On a quatre chanteurs solistes aux instruments: François Fernandez au violon solo et à la direction, Yunkin Fernandez au violon et à l'alto, Shi Shuai Xiang au violoncelle, Laurent Le Chenadec au basson, Sun Kim à l'alto, Sun Blondelli au bois et Jean-Christophe Leclerc, notre organiste titulaire de l'orgue de Suip et de l'orgue de la basilique de l'Épine, qui vont nous interpréter donc cette cantate entière des profondeurs vers la lumière.
Une grande équipe pour ce premier concert, on le disait, hein, sur le thème des profondeurs vers la lumière. Ce sera à 20h30 en l'église Saint-Martin de Suip pour fêter les 20 ans de l'orgue Rémi Balère. Jean-Michel Audard, je rappelle, président des Amis de l'orgue de Suip. Un autre rendez-vous qui aura lieu le lendemain après-midi, 15h, toujours avec d'ailleurs Jean-Christophe Leclerc, hein, de la basilique de l'Épine.
Tout à fait. Le programme du dimanche 15 à 15h est un petit peu différent, dans le sens où, dans le cadre du jumelage avec une ville d'Allemagne qui s'appelle Ardheim, l'organiste Stéphanie Hayden d'Ardheim, qui interprétera avec d'autres organismes dont je vais citer les noms, un marathon d'orgue en interprétation libre, Joseph Requia, l'organiste des orgues de Sainte-Menou, et Richard Legardeur de Reims, qui est professeur de musique à l'école de musique de Suip. Et bien sûr, Jean-Christophe Leclerc de la basilique de l'Épine et de l'orgue dessus.
Donc deux très beaux rendez-vous hein, qui auront lieu ce samedi 14 octobre 20h30 et dimanche 15 à 15h. Entrée libre bien sûr, avec participation libre bien évidemment à ceux qui le souhaitent à ces deux différents concerts, Jean-Michel Audard.
Tout à fait. On a eu la chance de pouvoir mettre en place avec le collège de Suip, le collège Louis Pasteur, vendredi pendant les répétitions, 28 collégiens avec leur professeur de musique, Monsieur Munch, viendront découvrir l'orgue et assister à une partie des répétitions de tous les choristes coréens.
Merci Jean-Michel Audard d'avoir été avec nous en ligne sur RCF, je rappelle, président des Amis de l'Orgue de Suip, de nous avoir présenté à la fois votre association, mais aussi de nous avoir présenté cet événement exceptionnel, les 20 ans de l'Orgue de Rémi Malher, qui se tiendra ce week-end avec deux concerts, on le rappelle, samedi 14 octobre 20h30 sur Les Profondeurs vers la Lumière, et le dimanche 15 octobre 15h sur De Bach à 1918. Merci Jean-Michel Audard.
Merci Christophe.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer ce week-end du côté de Suip. La programmation de ces deux concerts rassemblera 14 artistes, dont des Allemands, des Sud-Coréens et des Français. C'est sur ce rendez-vous que se referme le magazine régional ce vendredi soir. On se retrouve dès lundi 18h10 pour de nouvelles actualités en région. Vos différentes rédactions locales prendront la main dès 7h du matin lundi. Dans quelques instants, c'est la rédaction nationale de RCF qui vous propose des informations au niveau national et à l'international. Très bonne soirée et très bon week-end en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Prenez soin de vous.